l'intelligence artificielle et la data. Pourquoi ces technologies prennent une place si importante aujourd'hui? Dans notre podcast, nous retraçons le parcours de nos invités qui travaillent avec la data et l'IA. Ensemble, nous explorerons les enjeux actuels, les risques potentiels et les questions d'éthique liées à ces technologies fascinantes et controversées. Cultivez votre curiosité avec le podcast Data Rockstars.
Donc moi je m'appelle Jean-Marc Sevin, j'ai 47 ans. Je travaille en tant que senior data scientist au Learning Planet Institute à Paris. Avant c'était connu sous le nom de CRI pour Centre de Recherche Interdisciplinaire. C'est une association qui a été fondée en 2006 par deux chercheurs, François Taddeï et Ariad Linder. Ces deux fondateurs à l'époque, ils ont été convaincus que face aux défis complexes auxquels on est confronté aujourd'hui, que ce soit transition écologique, le dérèglement climatique ou la transformation du monde professionnel et d'éducation liée notamment à l'essor de l'intelligence artificielle. Les meilleures clés, enfin en tout cas les facteurs clés pour s'y attaquer, c'était finalement l'apprentissage tout au long de la vie et l'intelligence collective. Et donc, ils ont mis en place cette structure qui était toute petite au début, où l'idée c'était d'explorer, d'expérimenter, de prototyper et après de partager différentes manières d'apprendre et de coopérer pour justement servir, que ce soit les défis que j'ai présentés, la lutte contre les défis que j'ai présentés, servir la jeunesse aussi, puis la planète si on voit un peu plus large. Et donc aujourd'hui, on a le Learning Planet Institute à 5 pôles qui sont, je ne sais pas me tromper, qui sont R&D, éducation, alliance internationale pour toute la fédération de communautés apprenantes, transformation des organisations et écosystème numérique. Et en fait, sur ces 5 axes, en fait, on travaille de façon à, comme je l'ai dit, développer une nouvelle manière d'apprendre et de coopérer avec une forte composante d'interdisciplinarité, de diversité et d'initiative par l'action.
Là, on va parler un peu de toi. Et en particulier quand tu étais ado.
Ce qui remonte un peu.
Ah oui, je crois que tu vas aller devoir chercher des souvenirs maintenant. Du coup, dans quel type d'environnement tu as grandi, tu as évolué? Quel était le rapport aux technologies à ta jeunesse, disons?
Donc moi, ça remonte au millénaire dernier.
C'est ça.
C'était donc les années 90. Donc c'était. Alors quand je dis millénaire dernier, ce qui est important, c'est que c'est pré-internet. Donc c'était une époque où t'avais pas tout sous la main. Moi en l'occurrence j'étais pris par la révolution de la musique électronique de l'époque et j'avais pas une touche pour obtenir un morceau et ça arrivait. C'était qu'il fallait aller chez les disquaires où il y avait 10 copies qui arrivaient. C'était il y avait une quête de l'objet si tu veux. Donc il y avait cette notion là à l'époque. Après j'ai eu je pense une adolescence un peu plus classique avec des potes. Le lycée, rien de particulier quoi.
De suite, t'as su que t'allais te diriger en fait vers des univers en fait à forte présence de mathématiques ou en fait t'as suivi le chemin. Comment était justement l'accès en fait à l'information? Parce que j'imagine que la scolarité n'était pas du tout la même. La compréhension justement de la scolarité et de l'éducation n'était pas du tout la même. Comment on s'oriente en fait à ce moment-là?
Je pense que ça n'a pas changé, même si on est 30 ans plus tard aujourd'hui. On continue à s'orienter par rapport à ce que dicte un peu le système et à ce que dicte la culture, ce que dictent les parents notamment. Donc forcément, on suit un peu les appétences des ados. Donc moi, j'avais plus un esprit scientifique, donc je suis parti dans cette voie-là. Au tout début, je pense que de mémoire, je voulais faire psycho. Mais c'était pas une voie royale en tout cas, et pas du tout une voie scientifique, donc on m'a pas encouragé là-dedans, que ce soit les professeurs ou à la maison. Donc je suis plutôt parti sur les sciences, et ça reste, aujourd'hui ça reste encore une voie naturelle, parce qu'on sait que c'est celle qui ferme le moins de portes, ou en tout cas qui retarde le maximum la fermeture de ces portes. Donc quand on sait pas trop, et qu'on a des facilités, on suit cette voie.
Tu peux m'expliquer un peu ton parcours universitaire, académique? Est-ce que
tu avais envie de faire une spécialisation en particulier en mathématiques, en sciences ou peut-être en info. Qu'est-ce que tu avais en tête en fait avant d'y aller? Est-ce que tu avais choisi quelque chose en particulier?
Alors pour le coup, moi je me suis défini, je continue à me définir comme ce qu'on appelle un jack of all trades. Donc quelqu'un qui est curieux, donc qui aime bien connaître plein de trucs et qui se spécialise jamais dans un seul domaine. Ça reste encore d'actualité, mais ça s'est cristallisé un petit peu à ce moment-là parce qu'en fait j'ai fait bac scientifique, classe prépa scientifique. Mais à l'issue des classes prépa scientifiques, bah, comme c'est du gavage de sciences, bah, j'ai pas forcément adhéré à la méthode d'enseignement. Et donc, du coup, j'ai regardé ce sur quoi je pouvais aller autre qu'une école d'ingé. Et je suis parti, j'ai suivi une école de. J'ai fait un concours pour rentrer du coup dans une école qui proposait un double cursus, qui à l'époque s'appelait INT Management pour Institut National des Télécommunications Management, une école publique. Qui maintenant porte le nom de IMT Business School, donc Institut Mines Télécom Business School, qui est sur Évry, et qui jouxte en fait une école d'ingé, qui est Télécom Sud Paris. Et cette formation en fait était accessible sur concours aux scientifiques, mais également aux prépa HEC et aux prépa ENSKH en économie. Donc en fait, tu te retrouves avec une promo qui était déjà assez diversifiée, avec des gens qui venaient plus de l'économie, qui allaient découvrir du réseau, de l'info, et des gens qui venaient plus des sciences et qui allaient découvrir l'économie, le marketing, le droit, ce genre de choses. Et c'était justement cette découverte de choses qui, que je ne connaissais pas encore, soit à côté desquelles j'étais passé, qui m'intéressaient. Donc je suis rentré dans cette école, c'était une super expérience. 3 ans, et en fait j'ai fait une spécialisation en ingénierie des systèmes d'information, donc quand même en restant un peu tech. Et ensuite j'ai enchaîné sur la bulle internet et la révolution internet, parce que ça... vie professionnelle a commencé en 2000.
Quand je pense à la data science, je trouve que ça colle vraiment avec ton profil là et ce que tu me décris, parce que tu me dis que tu aimes toucher un peu à tout et tu es un curieux de tout, etc. Mais j'aimerais bien juste comprendre un truc. Comment en fait tu t'es retrouvé dans la data science? Est-ce que c'était un choix qui s'est fait parce que tu étais un curieux de tout, que tu avais envie de découvrir plein de choses, etc. Et du coup, c'était un choix de cœur, en fait, qui part de cette envie, en fait, de comprendre. Ou est-ce que la data science s'est imposée à toi naturellement par la force des choses, parce que le contexte était favorable, en fait, à ça?
C'est pas évident comme question.
Oui, je suis désolé, mais c'est surtout pour comprendre un peu le cheminement de ta pensée et comment tu as construit ta pensée pour en arriver là aujourd'hui, tout simplement.
J'ai fait l'exercice en fait, donc si je fais la passerelle, effectivement j'ai un cursus scientifique et j'ai commencé à bosser sur tout ce qui était internet, et j'ai bossé pendant 15 ans sur internet, donc avec du côté annonceur, agence, petite structure, grosse structure, coordination, web marketing, mais aussi développement. Donc j'ai touché à plein de choses, mais toujours avec ce dénominateur commun qui est internet. Et c'est vers 2015 que j'y trouvais plus mon compte, et c'est là justement où j'ai mis le doigt dans la data. Et si je dois du coup reprendre un petit peu le cheminement de ce qui m'a amené là, parce que j'ai déjà fait ce travail de retour en arrière, et c'est là où c'est pour ça que tu t'en feras ce que tu veux, mais ce qui a généré en fait, là où j'ai pu remonter dans cette arme, c'est un pote à moi qui en était voisin. Okay. On habitait les apparts à côté. Et en fait, ce voisin, il était fan de Kaamelott. Moi, je n'étais pas trop fan de Kaamelott à l'époque. Et donc, de temps en temps, je voyais voir chez lui ce truc-là. Beaucoup plus tard, je m'y suis remis un petit peu à Kaamelott, je trouvais ça bien. Et il se trouve que Alexandre Astier, un de ses deux spectacles, je ne sais plus lequel, il a fait venir une personne... qui s'appelle Bruce Benhamram, qui est le youtubeur de la chaîne Y-Penser, qui fait de la vulgarisation scientifique. Et donc j'ai commencé à suivre cette personne-là. Ce qui a commencé à réveiller un goût qui était très très lointain pour les sciences. Okay. Donc j'ai commencé à suivre un petit peu de vulgarisation scientifique via ces médias. Et en parallèle, j'ai commencé à suivre également des trucs entre guillemets un peu plus pointus. La vulgarisation scientifique, mais qui est faite sur France Culture via Étienne Klein, qui est aussi un vulgarisateur. Okay. Là, c'est le contexte. psychologique. Et donc en 2015, j'arrivais un peu en bout de cycle professionnel et je me disais, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Et donc j'ai regardé sur quoi je pouvais capitaliser par rapport à ce que j'avais fait avant. Soit partir sur un truc un peu plus tech, toujours sur le web, soit partir sur un truc plus marketing, toujours sur le web, soit sinon remettre le doigt vers quelque chose qui m'intéressait il y a longtemps et que j'ai laissé tomber, à savoir les maths. Et en faisant un peu de recherche, j'ai vu qu'effectivement, il y avait tout ce qui était autour de la data science et du machine learning. On n'avait pas encore étiqueté intelligence artificielle. Et j'ai commencé à regarder et je me suis dit, ouais, c'est pas mal en fait. Donc, j'ai commencé à suivre un MOOC. C'était le tout début, c'était en 2016, je crois. Il n'y avait pas grand-chose, c'était en anglais et c'était le MOOC de Andrew Ng, qui est un prof à Stanford, qui a cofondé la plateforme Coursera, qui est une plateforme de MOOC. Et il y a son MOOC Machine Learning, qui est en fait une retranscription du cours qu'il donne à Stanford en Machine Learning. Et c'était un bon exercice, donc je me suis dit, ok, je vais creuser, je vais voir ce que c'est en fait. Et là, je me suis dit, ah, c'est vachement bien. Sachant qu'en plus, cette personne-là est hyper pédagogue. Ok ?
Ouais.
Donc, ces trois options, je me dis, bon, bah, si j'ai trois choix, je vais plutôt aller sur la voie machine learning, ça me semble pas mal. Puis après, quand tu regardes justement, tu commences à lire des articles en 2016-2017 sur le sujet, tu vois que c'est un boulevard professionnel, quoi. Parce qu'il n'y a personne, il y a peu de formation, c'est émergent, et les boîtes comme Gartner prévoient une explosion du truc, donc tu dis, bon, c'est une bonne fenêtre d'opportunité, et en plus, ça fit avec mon appétence, donc je vais y aller.
À partir de quel moment on a commencé à parler de machine learning toi tu as découvert le domaine, on avait déjà des cas d'usage ou c'était encore au stade de découverte, de projet, encore au stade expérimental ou...
Alors, le machine learning c'est un champ qui existe depuis longtemps, hein, ça a plus de 50 ans. Il y a eu en fait une première vague, plutôt je pense au niveau des années 90. Et après, il y a eu ce qu'ils ont appelé l'hiver en fait, du machine learning. Donc en haut, surtout l'hiver des réseaux de neurones en fait. Mais c'est une période en fait où il y a des personnes qui ont été justement les grands noms qui sont aujourd'hui Joshua Bengio, Geoffrey Hinton ou Yann LeCun. C'est des personnes qui étaient dans cette première vague dans le monde de la recherche. Où il y a eu quelques justement applications derrière. Mais ensuite, ça s'est essoufflé. Donc c'est resté un champ de recherche. Champ d'application, mais qui était loin d'être au niveau qu'on a aujourd'hui. Et en fait, il y a eu plusieurs révolutions. Il y a eu notamment la révolution au niveau de la collecte des données qui a fait qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de data. Au niveau des puissances de calcul, où c'était beaucoup, beaucoup plus facile. Et là, on a commencé à avoir, et c'est pour ça que c'est milieu des années 2010, je pense que le gros point de bascule, ça a été via ImageNet. Donc en fait, c'est il y avait une compétition d'étiquetage d'image. Ok, donc tu devais à une image dire ça c'est une image d'un chat, c'est une image d'un avion, c'est une image d'une voiture. Ok, et c'est il y a des jeux de données standards comme ça et des histoires de, enfin des compètes pour justement tester les algorithmes. Ça a toujours existé dans le monde de la recherche et c'est là-dessus qu'on évalue justement l'avancée et les techniques. Mais dans les milieux des années 2010, il y a ImageNet qui est sorti, qui était basé sur des réseaux de neurones notamment, et qui a tué le game. D'accord ? Parce que justement, puissance de calcul, enfin les algos qui sont derrière existaient depuis pas mal de temps, mais c'est juste qu'il y avait beaucoup plus de données, beaucoup plus de puissance de calcul, et on pouvait du coup vraiment avancer.
Parce que c'est arrivé aussi en même temps que j'imagine que les révolutions techniques hardware.
Oui, avec les GPU, bien sûr.
Ouais, avec c'est ça, l'arrivée des GPU qui ont amélioré.
Et donc, ça a commencé à redonner un élan. Ouais. Et c'était que le début de cet élan-là, parce qu'en fait, la puissance de calcul, elle allait augmenter. La puissance de stockage, elle a augmenté aussi. Et les cas d'usage possibles allaient également augmenter. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec un appel d'air où tout d'un coup, on avait le moteur et le carburant pour. Faire plein de trucs qu'on pouvait pas faire avant, juste il n'y avait pas les profits. Et c'est à ce moment-là, en fait, milieu des années 2015, que l'étiquette data scientist est sortie. Et juste, il n'y en avait pas, quoi, sur le marché. parce que il y avait effectivement des chercheurs, il y avait des statisticiens, mais qui travaillent pas vraiment sur le même, qui ont un peu un background semblable, mais où il manque d'autres éléments. Et donc des personnes, enfin il y avait un appel d'air avec pas une demande aussi présente qu'aujourd'hui, mais quand même une grosse demande, mais pas de profil en face. Et donc il a fallu que les formations se mettent en place. Ça a pris, enfin entre 2015 et 2020, il y a quand même eu une croissance des formations, mais au début il y avait juste rien quoi.
Du coup toi, quand tu me dis en 2016, justement tu réfléchissais à ça, en fait il y avait pas grand chose.
Parfaite passerelle en fait, parce que effectivement moi je me suis dit ok, je vais partir là-dessus.
Oui.
Donc un MOOC en ligne, un deuxième MOOC en ligne où en fait là je suis parti sur des maths, parce que il y avait cette notion de big data aussi, et puis Télécom Paris qui était lié quand même, parce que moi j'ai fait une école initialement qui était dans le groupe des écoles de Télécom. Télécom Paris en faisait partie, et donc c'est naturellement j'ai regardé ce qu'ils faisaient, parce que c'était aussi une école du numérique qui est reconnue. Et ils avaient sorti un MOOC qui s'appelait Fondamentaux pour le Big Data, qui était des maths. Donc algèbre, programme, analyse, que des trucs comme ça. Je me suis dit, ok, je vais continuer à gratter parce que c'est assez connexe avec ce que j'ai envie d'explorer. Et puis on va me tester, voir si effectivement c'est pas une illusion, est-ce que j'ai vraiment envie de retourner là-dedans. Et ça m'a plu. Donc je me suis dit, ok, maintenant je regarde au niveau académique ce qui existe. Il existait 4 ou 5 formations en France, c'est tout, quoi, académique. La plus reconnue à l'époque étant celle de Télécom, et donc c'était le master spécialisé Big Data, et je suis parti là-bas.
Comment cette nouvelle étude ou une nouvelle formation ou la faire financer, ça représente quand même un risque. Comment toi, en fait, t'as pu pressentir que ça allait pas faire comme la première fois, et donc un hiver des réseaux de neurones, et que ça allait être un secteur qui allait perdurer? Est-ce que t'avais des indicateurs, des choses qui te montraient que ça allait tenir?
Non, déjà j'en étais pas sûr. Mais il y avait quand même, en tout cas, un discours unanime à cette époque qui était autour de la data science et aussi du big data. Parce qu'il y avait des gros volumes de données qu'on pouvait traiter, et donc il y avait pas que le côté algo, il y avait le côté aussi comment tu fais pour traiter des gros volumes de données sur des architectures distribuées. Donc il y avait deux trucs en fait qui intervenaient, qui me faisaient penser que c'était pas juste une mode, si tu veux, il y avait vraiment quelque chose. Et ça revient quand même au fait que mon premier réflexe a été de voir si ça m'intéressait. Après, j'ai vu qu'il y avait effectivement un boulevard professionnel, donc je me suis dit, ouais, le fit, ça marche bien, ça confirme. S'il n'y avait pas eu ce boulevard, je ne sais pas si j'y serais allé. Et je ne pouvais pas le savoir, mais il y avait quand même des signes annonciateurs que c'était... Ouais, ça allait le faire.
J'aimerais bien qu'on voit le côté un peu double tranchant des technologies, de l'intelligence artificielle, le big data. Leur impact en fait sur nous, je pense par exemple à leur utilisation par des grands-parents, par des adolescents, le décalage générationnel et comment ça peut affecter en fait nos comportements, et parce que justement il y a plein de choses qui peuvent dériver de ça. Et dans une deuxième partie, j'aimerais bien qu'on voit en fait comment on peut répondre à ça, c'est-à-dire quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour se préserver, tout en profitant de ces outils, comme tu disais très bien, qui sont formidables, avec lesquels on peut faire plein de choses. Voilà.
Il y a déjà la notion d'acculturation numérique, qui fait qu'effectivement les grands-parents, ils sont encore, même s'ils ont, via la crise sanitaire, via les petits-enfants qui les sensibilisent, etc., il y a effectivement un décalage générationnel, et de tout simplement d'acculturation et de... l'appropriation de tous ces outils, toutes ces technologies. C'est normal, on va dire. Le côté acculturation à l'IA et à la donnée, c'est autre chose. D'accord ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, tu prends un grand-parent et tu prends un ado, ils ne sont pas la même utilisation des terminaux numériques, des réseaux sociaux, etc. Je ne suis pas convaincu qu'il y en ait un qui connaisse plus les tenants et les aboutissants.
Je vois.
Ok.
Oui.
Aujourd'hui, on a dans la main des smartphones en permanence, qui sont des concentrés de technologies de dingue. Personne ne sait comment ça marche. Et personne ne sait effectivement tout ce qui est collecté, comment ça fonctionne. Cette acculturation à la donnée et à l'IA, il y a un différentiel incroyable. C'est illustré par... si on parlait de documentaire tout à l'heure, et le documentaire derrière nos écrans de fumée sur Netflix, une très bonne illustration de ça. tu écoutes quelque chose, ça te prend en partie effectivement ton sens de l'ouïe, mais tu es quand même encore vigilant, sachant que la vision, c'est un sens qui fait deux tiers en fait de ton mix sensoriel, de ton interrelation à ton environnement, d'accord ? Quand ton sens de la vision, il est coupé et qu'en fait il tient sur un truc de cette taille-là, qu'en plus effectivement tu as coupé l'ouïe qui est le deuxième sens, c'est-à-dire que tu es coupé à 90% de ton univers. Quand tu vois que dans le métro, je dis pas que c'est le lieu funky le métro, mais ok, prenons un autre exemple, tu vois des personnes qui sont au resto.
Oui, bien sûr.
On a tous vu un couple au resto et en fait les deux ils sont en face, ils sont sur leur téléphone. Moi personnellement, humainement, ça me désole et pourtant j'adore la technologie, tu vois. Mais il y a un truc qui me désole, qui m'inquiète et il faut pas l'enlever complètement, mais comment tu fais pour accompagner cette utilisation des usages? Il y a une grosse part justement d'acculturation au niveau de la donnée et l'IA qui est nécessaire pour bien faire comprendre aux gens que c'est des outils formidables, mais qui a des gros revers et qui travaillent à un autre niveau où en fait tu te rends pas compte comment tu te fais formater, comment tu te fais progressivement, je dis pas endoctriner, c'est pas la question, mais comment ton comportement change au fur et à mesure.
Est-ce que t'as pas l'impression que la technologie nous dépasse un peu parfois et que on a un peu de mal à s'adapter en termes de législation, en termes de sécurité de données, parce que partout où on bouge, justement, on laisse des données personnelles, etc.
Alors, j'ai essayé de pas prendre les autoroutes que tout le monde prend, même si c'est compliqué. Est-ce que les technologies évoluent plus vite que l'humain ? Oui. C'est un fait, on n'est pas aujourd'hui câblé biologiquement pour réagir comme il faut aux nombreuses stimulations qu'on a tous les jours via les terminaux numériques. Voilà. C'est établi. Est-ce que la confidentialité des données elle est assurée? En Europe, on essaie de faire des réglementations là-dessus. Maintenant, on est en 2023 et entre les réglementations et l'application qui en est faite, il y a toujours un différentiel, c'est-à-dire qu'on court après tout ça. Mais aujourd'hui, là, du fait de ces données qui sont majoritairement stockées dans des entreprises aux États-Unis, du fait de la réglementation qui n'est pas forcément harmonisée entre l'Europe et les États-Unis ou la Chine, tous ces éléments-là font qu'il y a un flux de données incroyable qui part régulièrement. Et le nombre de traces numériques que les individus laissent, qui sont stockées, récupérées et utilisées, en dépit de ce qu'on met en place en termes de cadre réglementaire en Europe, ça reste énorme. Et les individus commencent à en être conscients, mais ils ne changent pas leur comportement pour autant, en fait. Donc, il y a des bonnes pratiques. Au sein des acteurs du métier, effectivement, on est sensibilisé à ça. C'est hyper important qu'il y ait cette notion de ethic by design, où en fait, on va intégrer ça dans nos réflexions, dans nos conceptions de produits et travailler justement à corriger un peu le tir. Mais il faut pas se leurrer, aujourd'hui on continue à courir après la machine. Et tu peux couper tout ce que tu veux en circuit de collecte de données. T'arriveras effectivement à couper un pourcentage, mais tu continueras à être profilé de façon, sans rentrer dans une logique de théorie des complots, c'est pas l'idée, mais tu alimentes un vivier de données qui est gigantesque sans t'en apercevoir.
Oui, sachant qu'on ne se rend pas peut-être forcément compte de ce qu'implique par exemple les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle appliquée aux réseaux sociaux, parce que ça travaille à un autre niveau. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme outil ou initiative à notre disposition qui nous permet de mieux comprendre ou mieux aborder ça?
Alors, il n'y a pas de recette magique. Ça passe par la pédagogie de tout. Et un exemple qui illustre bien ça, c'est peut-être que tu connais une entreprise qui s'appelle les Magic Makers. C'est une entreprise qui a été fondée par Claude Thérosier, qui est en fait une entreprise de formation au code pour les enfants ados, on va dire. D'accord ? Donc ils font ça via des ateliers qui peuvent être organisés par des écoles, mais aussi pendant les vacances scolaires où tu vas y a assez d'enfants d'y aller. Et en fait, sa démarche à elle, c'était de montrer ce que ces outils peuvent permettre, tu vois, à ces jeunes générations, et de leur dire, ok, emparez-vous de ces trucs-là, un, parce que c'est des outils top, donc si ça peut vous aider à créer des choses, c'est même pas une logique de cocher des cases pour ton parcours professionnel, c'est vraiment de t'outiller sur ces technologies, c'est bien. Mais en plus, tu sens comment ça marche. Et ça passe par ça, en fait. Le seul problème, c'est que en dépit de leur méthode et du fait que l'équipe est super, ça touche une petite portion de la population pour plein de raisons qui sont structurelles, qui fait que tu ne peux pas déployer ça à grande échelle au niveau de l'éducation. Il y a plein de raisons qui font que. Mais aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est de l'information, la pédagogie, et une fois de plus, pas de faire de la mise en garde. Je pense que la mise en garde, elle peut se faire justement par des documentaires, des médias. Mais leur donner ces outils pour qu'ils puissent s'en servir et se rendre compte finalement après de même de mais en fait ça fonctionne comme ça, enfin leur apprendre à ouvrir la boîte, quoi. Sachant que c'est important de le faire pour ces jeunes générations, idéalement pour faire pour tout le monde, mais si on a le choix de le faire, si on peut faire qu'une seule des communautés, je dirais pour moi il faut prendre les plus jeunes parce que c'est eux qui vont être les plus impactés par ça.
J'aimerais savoir ton point de vue avec le recul et toute ton expérience pro. Selon toi, c'est quoi les chantiers auxquels on devrait s'attaquer pour pouvoir à la fois comprendre l'intelligence artificielle, ce qu'elle implique et cette révolution technologique, mais en même temps être en phase avec la crise écologique, les gestions des ressources, la pollution en fait due à ces technologies, etc. Donc, comment on fait justement pour à la fois, qu'est-ce qu'il faudrait plutôt attaquer en fait comme chantier pour être à la fois dans l'éthique et en même temps pouvoir travailler en fait avec ces outils.
Alors, ça n'engage que moi. Hein. Oui, donc déjà, si je suis allé dans ce domaine-là en particulier, c'est parce que je me suis dit que c'était pour moi, c'était le meilleur vecteur pour amener des changements positifs. D'accord ? De la même façon que je crois que c'est prouvé que le meilleur investissement à long terme, c'est l'éducation. À long terme. Ouais. Donc, par rapport, une fois de plus, aux enjeux qu'on a en face de nous, c'est la meilleure façon d'agir pour qu'on arrive à trouver des solutions ou à surmonter ce qui nous attend. Au niveau de l'éducation, c'est pareil, ça n'engage que moi, mais les profs font un super boulot avec les moyens qu'ils ont. Je trouve que le métier d'enseignant et de professeur, c'est le métier le plus louable, parce qu'ils ont un impact de dingue au niveau sociétal et au niveau individuel. Il faut avoir la foi. Moi, je me sens pas là, je me sens pas le courage d'y aller, quoi. Ils ont beaucoup de boucliers, beaucoup de problèmes à gérer, beaucoup de bâtons dans les roues pour avancer. Ce qui est fait souvent, c'est des rustines. Or, aujourd'hui, on a un stade où, de par les enjeux qu'on a en face, de par la révolution technologique qu'on est en train de vivre, il faut complètement changer de logiciel et complètement changer de paradigme.
Est-ce que selon toi, il y a des choses qui sont préoccupantes ou qui peuvent l'être pour le présent ou pour l'avenir quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'éthique justement autour de ça, ou la modification de nos comportements, comme on l'a dit tout à l'heure, et la modification des différents métiers, comment ça peut bouleverser la société par exemple. Donc est-ce qu'il y a des choses qui sont préoccupantes selon toi?
Le côté les comportements et les usages qui sont changés par une application ou l'arrivée d'une technologie, je pense pas que c'est lié uniquement à... ça a déjà existé dans le passé, donc c'est pas forcément un point négatif. Exemple d'Arte à la Crène, il y a quelques années, c'était le radiologue. D'accord. L'idée, c'était que le radiologue, il n'avait pas changé de... Enfin, le métier n'allait pas disparaître, mais il avait changé ses pratiques. Et ça, c'est valable pour plein, de plus en plus de métiers. Donc, que ça soit dans plein de domaines, notamment le droit, la compta, l'illustration, voilà. Des métiers qui sont impactés où ils vont... où en fait une part de leur activité va être automatisée ou automatisable ou remplacée, donc les personnes qui font ces métiers vont devoir changer leur pratique ou changer de métier en fonction. Ça, c'est indéniable. C'était déjà le cas il y a quelques années, et puis là on se reprend une couche justement avec les modèles génératifs qui ont été diffusés en 2022. Ce qui est peut-être plus préoccupant, c'est le fait que ça soit monopolisé par seulement quelques grands acteurs anglo-saxons. Faut être franc, c'est un peu de... Et si on parle des modèles gigantesques qui sont aujourd'hui démocratisés, que ce soit en texte, en image, ces trucs-là sont majoritairement produits par des labos de la Silicon Valley, ou en tout cas de la côte ouest. Pour l'Occident, après, en Chine, ils font d'autres choses, mais ça attaque pas forcément notre marché. Et aujourd'hui, tu vas te retrouver avec, soit je prends ces trucs-là qui sont hyper performants, mais bon, je sais les inconvénients que ça peut avoir, que ça soit au niveau économique, au niveau éthique, et puis c'est un peu opaque. Soit sinon, je fais un truc où je contrôle, mais qui va être moins performant. Quand ils sont dans une logique de business aujourd'hui, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, on essaie en Europe de travailler à rétablir et à ajouter un peu d'éthique et à pondérer ça, aujourd'hui, si t'es un industriel, tu vas pas te poser la question, tu vas prendre le truc qui te fait les meilleurs perfs, et donc tu vas prendre le truc qui potentiellement qui coche pas toutes les cases éthiques. Donc ça c'est préoccupant. Le deuxième truc, c'est que, à mon sens, c'est que c'est des outils formidables, mais qui pour le moment sont utilisés pour des trucs qui sont pas forcément super vertueux. C'est-à-dire que aujourd'hui, et ça j'ai été convaincu dès que j'ai mis le doigt là-dedans et que j'ai vu que les champs des possibles étaient gigantesques. Et ça reste le cas en fait. Pour moi, c'est la data science, le machine learning, tout ça, c'est juste une trousse à outils. Ça m'arrive de me présenter comme l'équivalent d'un plombier en fait, où j'ai des outils qui sont des algos, des données, c'est des outils un peu perfectionnés, basés sur des maths et de l'info. Mais en fait, moi j'ai besoin d'une question et d'un cas d'usage. C'est pas la finalité, c'est pas ma boîte à outils en fait. Qui plus est, en plus, il y a des nouveaux outils qui sortent en permanence. Au bout d'un moment, ta trousse à outils, tu te dis c'est moi, je la connais suffisamment, même s'il y a des trucs hyper fancy qui sortent, c'est pas grave, je reste avec ma trousse. Et les cas d'usage qui sont présentés en face, pour moi, ils ne servent pas les enjeux principaux qui sont ceux que je t'ai cités et sur lesquels on travaille au Learning Plans Institute, qui sont l'apprentissage tout au long de la vie, apprendre aux gens à coopérer, comment tu fais pour les outiller justement pour qu'ils puissent s'attaquer à des défis ultra complexes comme le dérèglement climatique où c'est multifactoriel, où la solution elle n'existe pas dans les livres, où justement c'est à la frontière entre la recherche, l'application. Donc, tous ces trucs-là qui sont hyper complexes, qui pourraient bénéficier de ces outils, ils en bénéficient, mais à la marge. La majorité des choses, si je caricature et je grossis le trait, les gros acteurs justement qui développent ces technos, qu'on connaît, c'est majoritairement pour faire de la pub en ligne. Ce qui s'entend au niveau business, mais moi je trouve c'est un peu dommage, et c'est ce qui fait que c'est ce que j'ai choisi en tant que voie professionnelle après ma formation, où je me suis dit, avant la formation, je me suis dit, bon, je capitalise, j'ai 15 ans d'XP dans autre chose. Ce qui serait logique, c'est que cette trousse à outils nouvelle, j'utilise mon savoir d'avant. Et je me suis dit, c'est des outils tellement dingues, à mon âge, en fait, j'ai pas envie de les mettre à un profit de trucs comme ça, même si ça pourrait être plus rentable et que technologiquement, ça serait éclatant. Mais je me dis, non, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apporter ma petite pierre et ma petite brique à quelque chose qui est beaucoup plus grand, et je me dis que ces outils peuvent le servir. Mais malheureusement, ça reste aujourd'hui encore marginal.
Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut s'intéresser à la data science, à l'intelligence artificielle? Par quoi il commencerait? Quel est l'outil principal du data scientist?
C'est maths.
Les maths?
Ouais, d'accord. En fait, maintenant, tu peux... c'est pareil, dans les profils, on le disait tout à l'heure, data scientist, il y a... justement 5-7 ans, c'était émergent et donc on pouvait à peu près définir. C'était un profil qui était à l'interface du business, des maths et de l'info, et qui pouvait travailler sur des données non structurées. Ça reste le cas, mais en fait ça s'est tellement étendu et tellement déployé en termes de techno qu'aujourd'hui c'est clairement, tu peux plus tout savoir faire. C'est pour ça que ça s'est scindé. Après tu as eu data scientist et data engineer. Après, tu as eu le MLNGF qui est arrivé, après, tu as le MLOps qui est arrivé. Il y a plein de trucs qui se sont greffés, qui fait qu'aujourd'hui, un data scientist, comme tu le disais, c'est d'une part, cette appellation, elle est très large, parce que tu peux avoir des profils ultra juniors qui ont fait genre 3 mois de bootcamp, et des profils ultra seniors qui ont fait éventuellement un PhD et des trucs en plus. Et même là-dedans, après, tu peux avoir des profils qui sont plus recherche, maths, à bosser sur les algos, et d'autres qui sont plus dans l'applicatif et éventuellement le déploiement de ça pour répondre à une question business. Donc, moi aujourd'hui, si tu veux, de par le moment où je suis entré là-dedans et mon âge, ça fait que je suis à même de discuter, de converser avec toutes les personnes dans ces axes. Ce qui est bien parce qu'en fait, du coup, des profils managériels qui comprennent ça, il y en a peu. Maintenant, tu peux trouver du coup quelqu'un qui est plus spécialisé que moi, voire même plus junior, et qui est meilleur que moi. Et ça, je trouve ça top parce que justement, je vais apprendre, on va apprendre ensemble. Mais c'est, ce terme est tellement vaste aujourd'hui que tu peux l'attaquer par plein de bouts. Et si je rebondis sur ta question, en fait, il y a un profil qu'on voit un peu émerger maintenant, qu'on définit comme un data analyst plus. Où c'est quelqu'un qui n'a pas forcément tout le bagage de maths que tu es obligé d'avoir quand tu fais data scientist, qui va être plus dans l'applicatif. Il n'aura pas non plus tout le bagage info, mais il sera à même d'interagir avec des outils qui sont faciles à utiliser, qui font et de l'implémentation ou des trucs plus info et de l'algorithmique plus maths. Mais ça, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire l'interface entre la question business qui lui est posée, un jeu de données et ces outils-là. Donc, si tu veux, utiliser de la data science ou du machine learning aujourd'hui, c'est ouvert, tu peux le faire au lycée en 3 lignes de code. Mais tu peux le faire aussi en t'attaquant à un truc ultra précis, en allant challenger des jeux de données qui permettent de comparer des algos et faire de la recherche à ce niveau-là. Donc, le spectre est ultra large. Donc, en termes de formation, c'est pareil, c'est ultra large. Et donc, finalement, c'est... Je dis pas que c'est open bar, mais tu peux l'attaquer par plein d'angles, que ça soit par le côté je fais une école de commerce, je fais un truc business, et donc je veux utiliser ces outils-là pour répondre à la question. Ça soit je suis un développeur et j'ai envie de mettre le doigt un petit peu dans la donnée, donc c'est possible aussi, ou ce soit quelqu'un qui est branché par les maths. L'axe d'entrée, il est multiple, et le niveau d'entrée, il est multiple aussi. C'est une trousse à outils qui s'est énormément démocratisé, qui est accessible par plein d'angles différents et à des niveaux différents. Il y a quand même un danger avec ça, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les notions de biais. Aujourd'hui, les usages des produits développés avec ces technologies fait que on fait facilement confiance à ce qui est proposé. Que ça soit notamment pour du matching, soit pour de l'offre d'emploi, de la formation, des rencontres personnelles, de la consommation de contenu, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui sont poussées comme ça et en fait, on ne challenge pas. Déjà, on ne sait pas forcément comment ça marche derrière. Et puis, on a un biais qui fait que, peut-être par facilité, en fait, on se laisse avoir et on prend ça sans forcément challenger ce qui est proposé. Le problème que ça entraîne, du coup, c'est que si tu ne sais pas comment ça marche vraiment et donc si tu n'es pas en mesure d'ouvrir le capot et de voir comment ça fonctionne, même quand tu es dans ces métiers-là, tu peux facilement te laisser avoir. Je développe en disant que si tu as une question business, tu t'es basé sur un jeu de données, sur des algos pour répondre, en mode data analyst plus, tu as bien fait ton boulot. Mais tu peux facilement, parce que peut-être tu as des lacunes en maths, être entré dans un biais ou avoir fait une erreur de raisonnement qui va du coup entraîner des mauvaises conclusions. Et ça, si t'es pas à même de le détecter en tant que manager ou en tant qu'exec qui a posé la question, c'est pas bon. Donc, c'est une trousse à outils, oui, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui connaît la conception des outils dans la boucle. Voilà. Donc, moi, je trouve ça hyper bien et c'est quelque chose que je voyais venir, si tu veux, le côté... formation data science appliquée à un domaine ou dans des cursus généralistes, faire un module data science, ça c'est top. Pour autant, et ça c'est mon point de vue, tu peux pas laisser quelqu'un te faire de la data science pure entre guillemets appliquée à une question s'il a que 3 mois d'expérience en bootcamp. C'est trop dangereux. Donc, t'as besoin d'avoir des profils experts encore dans la boucle. Ou en tout cas, d'avoir justement des profils qui sont... et je prêche pas pour ma paroisse, hein, c'est pas l'idée, mais c'est que tu as besoin d'avoir quand même quelqu'un qui est en mesure de détecter les erreurs que tu as pu faire, parce que c'est frais.
Je te remercie infiniment d'être venu pour ce podcast. On a quand même bien parlé de un peu tout et n'importe quoi. On est parti un peu dans tous les sens. Mais c'était cool de t'avoir ici avec nous. Donc, au plaisir. Peut-être une prochaine fois alors. Ça marche.
Merci à toi.